que les problèmes font partie de notre vie au quotidien et que les solutions, ce n'est pas ce qui manque, Okapi Service vous met au centre de vos préoccupations et fait le relais avec les autorités compétentes pour trouver une solution. Okapi Service, nous sommes à votre service. De lundi à vendredi, dès 9h, heure de Kinshasa.
Éducation diffuse, que faire pour mettre les enfants à l'abri? Nous en parlons avec notre invité Isidore Bamanaï. Il est éducateur à la vie. On le disait tout à l'heure, si les sujets vous intéressent, vous avez dit qu'ils sont des préoccupations, appelez-nous déjà au 081-890-63-94. Bon nombre d'enfants n'ont pas de réponse aux questions posées à leurs parents. Alors qu'est-ce qu'ils font? Ils vont s'informer auprès des amis dans le quartier. Dans la plupart des cas, c'est dans la rue qu'ils vont chercher des réponses à leurs questions. Alors quels sont les risques liés à l'éducation diffuse? Isidore Bamanaï est en ligne pour nous en parler. Isidore Bamanaï, bonjour.
Bonjour Marcel, bonjour aux auditeurs de la radio Okapi.
Alors qu'est-ce qu'on attend par éducation diffuse lorsqu'on parle d'éducation diffuse? De quoi s'agit-il exactement?
Oui, merci pour le sujet, pour la question et pour l'invitation que vous m'avez adressée. L'éducation diffuse, c'est tel que vous l'avez dit là, quand l'enfant sort de la maison, qui commence à fréquenter quelques amis du quartier, où il commence à aller à l'école, où il commence à aller à l'église, il rencontre sur la rue autant d'autres personnes qui ont des principes peut-être différents de ce que l'enfant a appris dans sa famille. Et à ce moment-là, si ce principe entre dans sa vie, commence à guider son comportement, c'est alors que l'on parle de l'éducation diffuse. C'est cette éducation qu'on a ramassée sur la rue, et non pas auprès de personnes indiquées. L'éducation diffuse, c'est aussi l'influence des masses médias qui ont des programmes qui amènent les enfants à acquérir de mauvaises manières dans l'habillement, dans la façon de parler, dans la façon de marcher. Et c'est tout ça qu'on appelle l'éducation diffuse.
Ah voilà, les enfants vont apprendre dans la rue pour avoir de réponses aux questions pour lesquelles peut-être que les parents n'ont pas bien répondu. Et quels sont ces genres de questions qui peuvent faire que les enfants, plutôt que d'aller chercher à apprendre ça aux endroits indiqués, vont apprendre ça par exemple dans la rue? C'est généralement quel genre de questions?
Ah, merci Marcel, la question est vraiment pertinente. Mais permettez-moi, avant d'y aller, de dire que tout ce qu'on ramasse dans la rue, même si on n'a pas posé de questions, en regardant les autres faire, en les voyant parler, en les voyant s'habiller de telle ou telle autre manière, tout ce qu'on reçoit dans la rue fait partie de l'éducation diffuse. Mais parfois aussi, comme vous venez de le dire, il y a des questions auxquelles les enfants n'ont pas reçu de réponses, des réponses qui peuvent satisfaire leur besoin de savoir au niveau de la famille. C'est essentiellement les questions liées à la sexualité. Quand l'enfant qui a trois ans, il se rend compte qu'il est un garçon, la fille est une fille, ces enfants-là commencent à poser des questions sur l'origine de leur sexe, sur les différences qu'ils constatent sur leur corps. Et alors, je crois que les parents sont souvent gênés de pouvoir répondre à ces questions-là. Et quand l'enfant a grandi, qui devient un adolescent, souvent, ils ont, pour les garçons, quand il y a eu émission involontaire de sperme, il ne s'est pas posé la question à son père ou à son grand frère. Il va poser la question à son ami sur la route. Bon, la même chose pour la fille. La fille a un peu de chance avec sa mère. Il y a une certaine intimité. Mais c'est souvent les garçons, quand ils se retrouvent à l'âge de l'adolescence, ils se retrouvent dans leur bande. Souvent, ils se donnent eux-mêmes des notions sur la sexualité, et ce ne sont pas des notions qui sont souvent exactes, et ce sont des notions ainsi qui détournent le comportement des jeunes gens.
Alors, si on comprend bien, c'est d'abord le problème lié à la sexualité, qui sont des fois, dans certaines familles, un sujet tabou, qui fait que les enfants vont chercher à s'informer ailleurs. Alors, pour ce qui est de la sexualité, comment mettre les enfants à l'abri de l'éducation diffuse? Comment les aider déjà concernant la sexualité? Comment aborder ces questions avec les enfants?
Oui, merci beaucoup Marcel. Je crois que pour bien aider l'enfant, il faut le connaître. Pour éduquer John, il faut connaître John. Ce que l'enfant reçoit auprès des amis, c'est pas seulement lié à la sexualité. Vous verrez que l'enfant commence à voir l'injure facile, il commence à voir un langage grossier. Vous verrez que l'enfant, peut-être petit à petit, commence à voler des petites choses dans la maison. Ou c'est un garçon, il commence à tournoyer autour des filles. Et parfois aussi, c'est l'école buissonnière, c'est la corruption pour passer d'une classe à l'autre. On va chercher l'argent auprès des amis ou auprès des membres de la famille. Pourquoi pas auprès des garçons, s'il s'agit de filles, pour pouvoir corrompre l'enseignant et avoir une cote qui permet de passer d'une classe à l'autre. Mais quand vous insistez sur la sexualité, laissez-moi vous dire que si il faut vraiment mettre les enfants à l'abri, ce que les parents doivent faire, c'est faire tomber les masques. Pour faire tomber les masques, il faut s'approcher des parents, il faut que les parents eux-mêmes soient renseignés sur les notions exactes de la sexualité, de telle manière qu'ils donnent des réponses bien mesurées, des réponses adaptées au niveau des enfants. Quand bien même les enfants ont besoin de savoir, ils ne vont pas tout savoir sur la sexualité, mais si l'enfant, la fille veut savoir comment, d'où proviennent les règles, j'estime que si le parent a une information exacte là-dessus, il faut donner l'information à la fille, et particulièrement si le garçon a eu une émission involontaire de sperme, je crois que le parent doit être en mesure de lui dire, voilà, c'est le rodage de votre corps, le corps qui se prépare à la maturité. Vous verrez même que le matin, il y a le corps, le sexe mâle qui se met en mouvement et que c'est naturel, il ne faut pas en faire un drame. Je crois que si l'enfant a déjà eu cette information auprès des parents, quand les autres vont les rencontrer dans la rue d'abord, il n'aura peut-être pas besoin de leur poser la question, mais si entre eux ils en parlent, lui il peut dire, écoutez, ce que moi j'ai appris auprès de mes parents, qui me paraît exact, c'est ça, c'est ça, c'est ça.
Et bien souvent, il y a aussi des parents qui ont du mal à expliquer à un enfant l'origine de la grossesse lorsque il y a le ventre de la maman qui la maman est enceinte. Il y a deux fois des parents ne savent pas comment expliquer ça à l'enfant. Est-ce que là également, il y a de méthodes, il y a des techniques qu'on peut utiliser pour bien expliquer à l'enfant comment la maman qui avait un ventre plat, voilà le ventre qui devient gros.
Bon, c'est vrai. Les enfants qui ont 4, 5 ans, ils voient leur mère enceinte. Et souvent, ils posent la question de savoir, mais maman, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Et parfois, il y en a qui ont la malchance de recevoir une réponse comme j'ai beaucoup mangé. Et que, à ce moment-là, vous verrez votre fille le soir en train de manger et n'est pas quitté la table. Elle veut avoir un ventre comme celui de maman. Mais écoutez, c'est plus simple que la maman dise, là-dedans, il y a votre petit frère ou votre petite sœur. Si on a déjà été à l'échographie et qu'on connaît le sexe de l'enfant, on peut bien dire à cet enfant tout simplement que là-dedans, il y a votre petit frère ou votre petite sœur. Un moment, il viendra au monde comme vous et vous allez commencer à vivre ensemble.
Voilà, nous avons déjà deux auditeurs en ligne. Saïd nous appelle de Kisangani en province orientale. Joseph Touluka est à Lubumbashi dans la province du Katanga. Saïd, bonjour.
Bonjour.
On vous écoute, Saïd.
Oui, j'aimerais intervenir par rapport à ce sujet. Je pense que la responsabilité incombe aux parents. Il y a de ces parents-là qui se comportent eux-mêmes, ils n'ont pas le temps de passer des conseils à leurs enfants, ils les laissent partir. C'est pourquoi les enfants qui ne sont pas encadrés par les parents, très souvent tombent dans ces genres de comportements, y compris les amis et autres. Donc, la tâche revient aux parents de bien encadrer ces enfants. Moi, je vous dis, il y a des parents travailleurs. Un papa qui quitte la maison de 7h, il revient à 18h, 19h. Et la maman aussi travaille. Donc, ces parents-là n'ont pas le temps de bien encadrer ces enfants. Alors, les enfants, c'est tout dans les téléphones. C'est ça.
Merci, Saïdi. Joseph Touluka, vous êtes à Lubumbashi, dans la province du Katanga. Bonjour. Bonjour, Joseph. Apparemment, on va retrouver Joseph plus tard, il n'est plus en ligne. Alors, qu'est-ce que vous dites à cette contribution de Saïdi qui dit que généralement la faute incombe aux parents?
Oui, merci Saïdi. Je crois que Saïdi a totalement raison. La responsabilité des parents est invoquée ici. Les parents sont les premiers éducateurs de leurs enfants. sont des éducateurs naturels. Le rôle qu'ils ont à jouer est un rôle irremplaçable. Personne d'autre ne viendra éduquer leurs enfants à leur place. Je crois qu'ils doivent prendre leurs responsabilités en main. Et quand bien même les parents ont donné des principes, une bonne éducation aux enfants, et attention, l'action de l'éducation diffuse peut toujours apparaître d'une manière ou d'une autre. C'est ainsi que, dans la tâche que les parents ont, ils devront veiller à former la conscience de l'enfant, mais aussi former l'esprit de discernement. Parce que après tout, l'enfant sortira de la maison, il va rencontrer d'autres situations sur la route, il va rencontrer d'autres amis qui sortent de leur famille avec une autre éducation différente de la leur. Je crois qu'il faut, en ce moment-là, si l'enfant, on a formé l'esprit de discernement chez lui, il doit apprendre à trouver ce qui est bon et ce qui est mauvais, ce qui est vrai et ce qui est faux, ce qui est beau et ce qui est laid. Je crois que si cet enfant a cet esprit de discernement et que les parents y veillent régulièrement, sa conscience est formée et de cette manière-là, il ne se laissera pas influencer par l'éducation diffuse.
Est-ce que les parents peuvent déjà anticiper, c'est-à-dire plutôt que d'attendre que la curiosité vienne de l'enfant, est-ce qu'un parent peut déjà anticiper en expliquant déjà à l'enfant certaines choses?
Bon, je crois que ce serait une prudence, mais ça dépend. Ça dépend de l'âge. Il y a des situations où, par curiosité, l'enfant pose la question, les parents vont sauter là-dessus. Mais il y a des situations où l'enfant doit avoir une information avant. C'est par exemple la petite fille qui a l'âge de la puberté, qui reçoit déjà l'information sur l'événement qui va lui arriver. Je crois que cet enfant, quand l'événement arrive, l'enfant est déjà prévenu, il pourra être tranquille, la fille pourra être tranquille, au lieu de s'agiter, au lieu de se poser des questions outre mesure. C'est la même chose pour les garçons. Je crois que si le garçon a 13 ans, 14 ans, s'il reçoit déjà l'information qu'il y aura tel événement qui lui arrive, je crois que ce garçon ne va pas, s'étonner, il ne va pas chercher à avoir des informations en dehors de ce qu'il a reçu de ses parents. Mais pour une mère enceinte, je crois qu'elle ne va pas de lui-même dire à ses enfants, écoutez, maintenant je suis enceinte, les enfants vont remarquer. Peut-être si les enfants posent la question, en ce moment-là, la mère saute sur l'occasion et donne à l'enfant l'information dont il a besoin.
Voilà, éducation diffuse. Qu'est-ce que ça pour mettre les enfants à l'abri? Nous en parlons avec Isidore Bamana, il est éducateur à la vie. Vous êtes parent, vous êtes parfois embarrassé de parler à vos enfants de certains sujets. C'est le moment de poser des questions experts. Isidore Bamana qui pourra vous donner des astuces comment le faire. Et il est là pour répondre à vos préoccupations, à vos questions. Vous pouvez donc nous appeler au 081 890 63 94 ou nous envoyer un SMS au 081 711 50 01.
Réponse à vos réactions, questions et suggestions avec l'invité d'Okapi Service.
Okapi. Raphaël Tumonga nous appelle de Lubumbashi dans la province du Katanga. Raphaël, bonjour.
Bonjour, cher journaliste.
On vous écoute.
Oui, je vois que la faute revient toujours aux parents du fait que il y a certaines familles où tous les deux parents sont des travailleurs. Et ils rentrent le soir à 18h. Ils n'ont pas le temps de conseiller leurs enfants. Et c'est pourquoi lorsque l'enfant n'a pas certaines informations dans certains cas, comme vous avez cité la sexualité, tout ça, et lorsqu'il va à l'école, il reçoit certaines informations de la part de ses amis. Il va faire tout pour mettre en pratique. Et c'est pourquoi il arrive beaucoup de fois à respecter les règles de leurs parents. Et ce qui est à la base que beaucoup d'enfants sont maintenant des délinquants, c'est de la part, la faute vraiment du côté de leurs parents.
Donc Raphaël, pour vous, vous estimez qu'il faut que le parent accorde deux fois beaucoup de temps aux enfants, parle à leurs enfants, et comment s'est passée la journée. Donc, c'est ça, il faut que le parent puisse jouer pleinement ces rôles-là. Donc c'est ce que vous voulez dire.
Surtout d'abord la maman, la femme. La femme, c'est la maîtresse de la maison. Mais lorsque elle est déjà travaillée, engagée quelque part, elle sort le matin, si elle rentre visiter, comment elle aura le temps d'éduquer ses enfants? Vous voyez ce que ça fait? C'est ce qui est à la base, c'est que beaucoup d'enfants maintenant sont maintenant des délinquants, les autres sont maintenant là, des boîtes à tout moment. C'est de l'irresponsabilité des parents.
Merci Raphaël. Paulin Angwandima nous appelle de Kisangani en province orientale. Paulin, bonjour. Bonjour Paulin.
Alors,
on vous écoute.
Oui, bonjour Radio Capi et bonjour notre invité.
On vous écoute, Paulin.
Ok. Ok. J'ai une petite préoccupation à poser à notre invité. Alors, il y a de ces enfants-là qui
sont. S'il vous plaît, Paulin. Paulin, s'il vous plaît. Paulin, s'il vous plaît, si vous avez une radio à côté de vous, veuillez carrément éteindre votre radio. Vous allez suivre avec votre portable, ça va? Donc éteignez votre radio et puis parlez avec votre portable.
Oh, ok, c'est déjà fait.
Allez-y, continuez.
Ok, je voudrais poser la question à notre invité, parce qu'il y a de ces enfants-là qui sont nés comme ça, et après leur naissance, les parents sont morts. Ils n'ont pas eu le temps nécessairement de bénéficier de l'éducation de leurs parents. Alors, que faut-il faire avec ces enfants-là qui traînent à la rue maintenant? Et je sais qu'il parmi eux, il y a de ces enfants-là qui ont réussi aussi des bonnes éducations diffuses à route et qui se portent aujourd'hui bien. Alors, quelle est la réaction de notre invité?
Merci, Paulin. John Ferruzzi nous appelle depuis Kindu, dans la province du Maniema. John, bonjour.
Bonjour, Radio Capi. Bonjour, l'invité.
On vous écoute, John. Voilà, dommage, on a perdu John. On revient à Isidore Bamana. Et qu'est-ce que vous dites à Paulin, à Ngwandima et également à Raphaël Tumonga?
Oui, merci. Bonjour Paulin, bonjour Raphaël. Raphaël insiste sur le fait que les parents doivent prendre les responsabilités, mais ce qui est tout à fait correct. Mais il parle des parents qui arrivent à la maison tard à cause de leurs occupations en dehors de la maison. Moi, j'estime que si les parents reviennent à la maison tard, 18h, 19h, les enfants sont au courant que les parents reviennent à cette heure-là. Je pense qu'ils sont fatigués, c'est vrai, mais ils doivent se dire, si nous ne faisons rien pour nos enfants seront mal éduqués, et les conséquences ne seront pas seulement sur les enfants, les conséquences seront aussi sur les parents, et même dans toute la communauté. Donc on trouve le temps. Même quand on rentre le soir, là qu'on trouve le temps, 20 minutes, 30 minutes, on a parlé avec les enfants, on mange, s'ils sont chrétiens, on prie ensemble. En ce moment-là, on peut aller dormir et se reposer. Je crois que ce n'est pas difficile à faire. Le temps, c'est un problème de volonté, c'est un problème de ce qu'on veut faire, c'est un problème des objectifs qu'on veut atteindre dans sa vie. Je crois que si on est derrière l'objectif d'une bonne éducation de ses propres enfants qui sont venus au monde, qui doivent défendre l'image de leur famille, on doit trouver le temps. Et si on a travaillé de lundi à samedi, je crois que dimanche, il ne reste qu'à aller à l'église et revenir à la maison. En ce moment-là, on donnera un peu plus de temps aux enfants. Parce que si les enfants sont de l'autre côté de la rive, je crois qu'il y a beaucoup de choses qui vont leur manquer. Ne fût-ce que cette présence significative, ne fût-ce que cette présence tendresse, des parents qui doivent exprimer cela à leurs enfants, je crois qu'il n'y aura pas moyen de gagner sur le plan de l'éducation. Mais quand notre ami Paulin dit, il y a des enfants qui sont restés orphelins très tôt, oh, condoléances à ces enfants-là. Je crois que la vie sera peut-être trop dure pour eux. Mais s'ils peuvent avoir un peu de chance d'être récupérés par un membre de la famille, ce membre de la famille doit jouer pleinement le rôle que devaient jouer les parents. Mais s'ils sont versés dans la rue, ils vont apprendre n'importe quoi. Dans ce moment-là, seul Dieu sait que dans la conscience de chaque enfant, il a déjà inscrit ce qui est bon à faire et ce qui est mauvais à laisser.
Parce que même quand vous voyez ces enfants-là s'attrouper et faire quelque chose, au milieu d'eux, il sortira une voix pour dire « Non, écoutez, laissons ce que nous sommes en train de faire là, ce mauvais. » Cette voix-là, je crois que c'est la présence de Dieu qui veut que, même parmi les enfants qui sont abandonnés, qu'ils ne soient pas totalement abandonnés, et que lui veille sur des enfants comme ça. Je crois que ces enfants ont leur conscience. S'ils écoutent leur conscience individuelle, ils peuvent avoir la capacité de dire « ça c'est mauvais, ça c'est bon ». Je crois que de cette manière-là, ils peuvent d'eux-mêmes résister à l'éducation du fils.
Voilà, deux auditeurs en ligne. Dingo, il est à Bukavu dans le sud Kivu. Kasereka est à Dingo est à Bukavu dans le sud Kivu. Kasereka est à Butembo dans le nord Kivu. Dingo, bonjour.
Bonjour Marcel et bonjour à l'invité Isidore.
On vous écoute.
En fait, Marcel, j'ai une petite question à poser à l'invité. En fait, j'aimerais savoir comment on peut garder cet enfant-là qui a toujours l'habitude de prendre les éducateurs de la rue.
Voilà, merci Dingo. Kasereka, vous êtes à Butembo dans le nord qui vous... Bonjour.
Oui, bonjour, c'est Bongilo Kasereka au niveau de Butembo.
Voilà, vous avez la parole.
Ok, j'aimerais apporter la faute aux parents parce que il n'anticipe pas pour conseiller les enfants. Parce que ça arrive des moments dans des familles heureuses, il y a des fois où les enfants mangent ensemble avec leurs parents au niveau de la table. Et là, ça arrive un moment, un enfant demande à son parent si l'enfant quitte où. Mais là, j'ai une question. Quand est-ce que l'enfant doit répondre à son enfant? Et à quel âge l'enfant là peut avoir accès à avoir cette question?
Vous voulez bien répéter, vous avez, Kasserika, quand son enfant fait quoi? Quand vous êtes à table?
Bon, je dis que.
Oui.
Parce que il y a, dans les familles, il y a des fois où les parents mangent ensemble avec leurs enfants
sur
la table.
Oui.
Maintenant, l'enfant pose une question à sa mère.
Oui.
Où quitte l'enfant? Parce que après quelques moments, peut-être il avait déjà vu que la maman est enceinte.
Ah, d'accord.
Maintenant, après avoir mis au monde, l'enfant demande à sa maman que si l'enfant quitte où? Maintenant, une question. La maman peut répondre à son enfant au moment où elle se trouve sur la table ou après quelques moments.
Merci. On vous a bien compris, Kasereka. Isidore Bamanaï.
Oui, merci. Merci à Dingo et à Kasereka. Marcel, si tu veux, je peux ajouter un petit quelque chose à Paulin pour les enfants qui ont perdu leurs parents très tôt. Je crois que en évoquant la présence de Dieu dans la conscience de chaque homme, il faut aussi évoquer le rôle de l'État. L'État qui a en face de lui ce phénomène des enfants de la rue, l'État devra se dire « c'est un danger qui guette ma société » et l'État devra arrêter une certaine des stratégies pour pouvoir encadrer ses enfants. Je crois qu'en ce moment-là, le Parlement, qui est le moteur des lois dans notre pays, devra mettre sur pied des lois qui invitent le gouvernement à prendre en charge ce genre d'enfants pour les encadrer, pour faire d'eux des hommes bien éduqués, qui pourront être utiles à la société. Mais comment garder l'enfant de l'éducation du fils? J'ai dit tout à l'heure que les parents doivent donner une éducation solide à la base. Ils devront insister sur défendre ce qu'on a reçu des parents. Parce que quand on a reçu de bonnes choses des parents, les enfants doivent être à mesure de se défendre devant les mauvaises choses que la rue leur apporte. Et les parents doivent y veiller chaque fois. Parce que quand l'enfant parle, les parents ont, s'ils sont attentifs, les parents peuvent se rendre compte que l'enfant a changé sa manière de parler. Il est devenu grossier. Si les parents regardent l'enfant qui était habitué à s'occuper dans la maison là de petites tâches ou à travailler ses devoirs quand il rentre à la maison, mais tout d'un coup, on le voit qui arrive, qui dépose son sac, qui commence à tournoyer, ou qui cherchent à aller chez les voisins, les parents doivent se rendre compte. Si, par exemple, l'enfant n'avait pas l'habitude de fumer, et les parents commencent à se rendre compte que de temps en temps, quand on passe à côté de sa chambre, on sent l'odeur de la cigarette. Les parents doivent être en mesure de se rendre compte qu'il y a quelque chose qui manque dans le comportement de cet enfant. En ce moment-là, ils s'emploient à redresser et en ce moment-là, ils doivent aussi apprendre à l'enfant qu'il va avoir des amis, mais il faut avoir de bons amis. Les mauvais amis, on les fuit et les bons amis, on s'y attache. Si on n'a pas la possibilité d'échanger les mauvais amis. Parce que parfois, on peut s'attacher à des mauvais amis pour les changer. Mais si on n'est pas en mesure de les changer, je crois qu'il faut peut-être les fuir pour ne pas tomber dans les mauvais comportements.
Voilà,
notre ami Kasserika dit,
Isidore, on va revenir on va revenir à vous tout à l'heure. Donc avant de répondre à Kasserika, on va d'abord accueillir deux auditeurs qui sont en ligne. Il y a Adrienne qui est à Lubumbashi et puis Corneille à Kambove, dont tous les deux sont dans la province du Katanga. Adrienne, bonjour.
Bonjour Marcel Ngombala, bonjour Monsieur Isidore Bamanaï.
On vous écoute, Adrienne.
Moi, je voulais demander à M. Isidore quel bon conseil et quelles sont les meilleures stratégies que M. Isidore pourrait donner au moins aux parents travailleurs pour que leurs enfants ne soient pas influencés par l'éducation du fils. Merci, Marcel.
Merci, Adrienne. Corneille, vous êtes à Kambove, dans le Katanga. Bonjour, Corneille.
Oui, c'est Corneille Samoan, toujours à Kambove, ici. Moi, je voulais savoir qu'en est-il de cet enfant qui reçoit tout de même les conseils de ses parents, mais qui n'arrête pas d'aller visiter ses collègues dans la rue ou à l'école pour développer sa façon de faire. Quand bien même, partant de l'idée selon laquelle les fruits interdits sont souvent les plus sucrés, vous pensez que même lorsque les parents peuvent interdire à leur enfant de ne pas faire ceci ou cela, l'enfant va-t-il exactement faire ce que les parents lui demandent?
Merci, Corneille. Voilà, Isidore, vous étiez à répondre à Kasserika qui voulait savoir, vous êtes à table avec un enfant qui pose une question délicate, par exemple, par rapport à la maman qui venait de mettre au monde. Qu'est-ce qu'on doit faire? C'est à ce moment-là qu'il faut répondre à l'enfant ou bien faudra chercher un moment plus tard?
Bon, je crois que ça peut être immédiatement, ça peut être par après. Mais si on dit à l'enfant, on va vous répondre par après, c'est seulement un motif d'échappatoire. Je crois que on aura mal fait de ne pas vouloir répondre à l'enfant, de remettre à une autre occasion. Et l'enfant va dire, bon, mes parents ici, quand je leur pose une question, je n'ai pas de réponse. Immédiatement, c'est possible de dire à cet enfant que toute femme qui est enceinte, quand le moment est venu, elle va à la maternité. Là, il trouve les sages-femmes qui vont l'aider à ce que l'enfant vienne au monde. Je crois que tous les enfants voient leurs parents, leur mère aller à la maternité et sortir de la maternité avec un bébé. Je crois que ce que les parents fuient, ils pensent toujours qu'après avoir donné une réponse comme celle-là, une autre question peut arriver. Je crois qu'en ce moment-là, on peut dire à l'enfant, vous pouvez vous contenter de la réponse que nous vous avons donnée parce que c'est une réponse exacte. Quant à savoir exactement par où l'enfant sort, attendez, quand vous aurez atteint tel âge, on pourra vous expliquer certaines choses qui ne correspondent pas à votre niveau maintenant. Je crois que si on lui dit sincèrement comme ça, on a apaisé l'enfant, on lui a quand même donné une réponse. Mais quant à savoir c'est à quel âge cet enfant peut poser cette question, mais écoutez, la question peut arriver, ça dépend de comment l'enfant est éveillé. Déjà, à partir de 3 ans, les enfants posent les questions dans tous les sens. Donc, si les enfants sont éveillés et si les enfants sont habitués à parler avec leurs parents, ils peuvent vous poser la question à n'importe quel âge.
Voilà, il y a Adrienne qui...
Adrienne de Lubumbashi demande quelles sont les bonnes stratégies pour les parents qui travaillent et qui ont besoin d'encadrer eux-mêmes leurs enfants.
Pour éviter qu'ils soient influencés par les autres.
Oui. Pour éviter que les enfants soient influencés par les autres. Je crois, Adrienne, j'ai dit tout à l'heure, que les parents qui rentrent à la maison après le service auront parmi les préoccupations C'est pas seulement manger, se laver, aller dormir. Auront parmi les préoccupations, regarder les enfants, parler avec eux, pour se rendre compte, est-ce qu'il y a quelque chose qui a changé en eux, dans leur façon de parler, dans leur façon de se comporter. Je crois que si les parents sont attentifs, c'est déjà une bonne stratégie, être attentif, et suivre, surveiller quels sont les amis de cet enfant, ces amis-là, ils sont de quelle famille, et ces amis-là ont quelle éducation aussi. C'est une bonne stratégie aussi. Mais la plus importante pour moi, c'est de trouver du temps pour ses enfants. Consacrer quelques minutes à ses enfants. Même 10 minutes. Les enfants et les parents qui sont déjà adultes, qui ont une bonne expérience, ils sont en mesure de découvrir qu'il y a ici une erreur à corriger. Et s'ils se mettent à corriger l'erreur tout de suite, sans attendre, avec amabilité, je crois qu'on fait appel ainsi à l'esprit de l'enfant, à son esprit de compréhension et à son esprit de discernement. À ce moment-là, l'enfant peut rectifier ce qu'il avait appris sur la route. Je crois que ce sont ces deux stratégies-là qui peuvent aider les parents à bien éduquer leurs enfants.
Il y a Corneille qui voulait savoir, alors que faire d'un enfant qui, malgré tous les efforts des parents, il n'arrête pas d'aller chercher, épuiser des histoires dans la rue pour les amener à la maison. Que faire d'un tel enfant, malgré l'encadrement des parents? Comment l'aider à ne pas être influencé par tout ce qui se fait ou qui se passe à l'extérieur?
Bon, merci beaucoup Corneille. Moi, je crois que ça, ce sont des cas qui demandent un accompagnement. Au micro de la radio comme ça, je crois qu'il est difficile de trouver des réponses réelles parce qu'il faut analyser la situation. Et qu'est-ce qui fait que l'enfant fréquente toujours ses amis-là, même si ce sont des mauvais amis qui lui apportent des choses qui ne sont pas bonnes? Mais aussi, il faut vérifier qu'est-ce que l'enfant a reçu auprès de ses parents. Est-ce qu'on a inoculé en cet enfant d'abord l'amour pour ses propres parents? Parce que il faut bien dire conseil, mais est-ce que nous aimons nos enfants suffisamment? Est-ce que nous nous rendons compte que nos enfants nous aiment? Si nos enfants nous aiment réellement, je crois qu'ils pourront garder ce que nous leur communiquons, s'ils nous aiment réellement. Je crois que c'est là qu'il faut chercher. Dans les relations interpersonnelles avec ses enfants, il y a quelque chose qui manque. On rentre à la maison avec l'attitude d'un chef, on commence à gronder, on tourne à gauche, à droite, on croit qu'on a donné des conseils, mais aussi quand on interdit aux enfants de faire l'une ou l'autre chose, moi j'ai l'impression qu'on n'a pas bien suivi le processus de l'éducation. Le processus de l'éducation, c'est pas seulement interdire, c'est plutôt dire à l'enfant ce qu'il doit faire, ce qui peut canaliser ses énergies et ce qui peut mobiliser son esprit.
Voilà.
En ce moment-là,
oui.
L'enfant peut se transformer facilement. Parce que quand il y a interdiction, la transgression arrive tout de suite. La nature de la personne humaine, elle est comme ça. L'enfant va dire, je vais essayer de faire ce qu'on m'a interdit là pour voir quelle sera la réaction des parents. Si évidemment l'enfant n'aime pas les parents, il aime les vexer tout le temps, en ce moment-là, il va faire juste le contraire de ce qu'on lui a interdit. Et vous voyez, il faut alors changer sa stratégie, changer son processus d'éducation pour essayer d'approcher l'enfant, vivre avec lui dans une ambiance amicale, de telle manière qu'il puisse gober tout ce qu'on lui aura donné, mais aussi qu'il puisse s'accrocher parce qu'on lui a expliqué ce qu'on lui a donné et qu'on l'a convaincu.
Voilà Isidore Bamanaï, on va s'arrêter par là avec tous ces conseils que vous venez de donner aux parents. Donc les parents ont pleinement joué leur rôle. Donc nous vous remercions d'avoir répondu à notre invitation pour répondre aux préoccupations des auditeurs sur ces sujets d'éducation diffuse. Que faire pour mettre les enfants à l'abri? Merci, au revoir.
Au revoir Marcel, au revoir aux auditeurs de la radio Capitale.